Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui suscite pas mal de curiosité chez les investisseurs français, la Bulgarie.
Bonjour. Oui, on a sous les yeux pas mal de documents, articles, analyses fiscales, même des retours d'expérience.
Exactement. Et tout pointe vers un tableau assez alléchant, disons. Des prix immobiliers qui semblent encore bas, une fiscalité très douce, et puis bientôt l'euro.
C'est ça. Notre mission, donc, démêler le vrai du potentiel, comprendre les opportunités réelles et les aspects pratiques. Alors, on commence par quoi ? Pourquoi cet engouement soudain pour la Bulgarie ?
Effectivement, les sources convergent sur plusieurs points clés. Le premier, et c'est souvent ce qui frappe le plus, c'est le régime fiscal. Une flat tax, comme on dit.
Ah oui, la fameuse flat tax. Voilà, un impôt unique de 10%, que ce soit sur les revenus des particuliers ou les bénéfices des sociétés. Et ça, c'est en place depuis 2008 déjà.
10%. C'est clair que comparé à la France, ça parle.
C'est un des taux les plus bas de l'Union européenne, oui. C'est un argument massif.
Et au-delà de l'impôt sur le revenu lui-même, qu'en est-il des frais quand on achète ? Parce que c'est souvent là que ça coince.
Alors, c'est un autre point fort qui ressort. Les frais d'acquisition, donc tout ce qui est notaire, enregistrement, les taxes diverses, on parle d'environ 2 à 3 % du prix d'achat.
Seulement 2 à 3 % ?
Oui. Quand on pense aux 7, 8 % ou même plus en France, ben, la différence est énorme. Ça allège quand même pas mal le coût initial, quoi.
C'est sûr.
Mais l'élément, disons, nouveau et structurant, celui qui va changer pas mal de choses bientôt, c'est l'arrivée de l'euro.
Ah oui, l'euro en Bulgarie. C'est mentionné partout comme un événement majeur. Pour 2026, c'est ça ?
Exactement. Le 1er janvier 2026, si tout va bien, la Bulgarie deviendra le 21e membre de la zone euro.
Et concrètement, pour un investisseur français, ça change quoi ? C'est juste pratique ou il y a un vrai impact ?
Oh, c'est bien plus que pratique. Le taux de conversion est déjà fixé, définitif. 1 euro pour 1,955,803 leva. Donc, pour quelqu'un de la zone euro, plus de risque de change.
Voilà, fini le risque de change. Ça sécurise l'investissement, les revenus futurs. C'est aussi une simplification énorme pour la comptabilité, la gestion. Plus besoin de jongler avec les taux de conversion. D'accord. Et il y aura une transition, j'imagine ?
Oui, les sources parlent d'une période de transition classique. Double affichage des prix pendant un an et échange gratuit des livres en euros dans les banques pendant 6 mois. C'est un signal fort d'intégration, de stabilité. Bon, le cadre général est posé. Fiscalité top, coût bas, l'euro qui arrive, très bien. Maintenant, si on se met dans la peau d'un investisseur basé en France, comment ça se passe pour lui fiscalement ? Quel est son statut là-bas ? Comment on évite la double imposition ?
Alors, c'est le nœud du problème, bien sûr. Et les documents sont assez clairs là-dessus. Un Français qui investit, mais qui garde sa vie, son centre d'intérêts vitaux en France, il sera considéré comme non-résident fiscal bulgare.
La règle des 183 jours, j'imagine ? C'est ça, moins de 183 jours par an en Bulgarie. Et ce statut de non-résident, il est clé parce qu'il active la convention fiscale entre la France et la Bulgarie. Elle date de 1987, mais elle a été mise à jour, modernisée en 2023.
Ah, une convention modernisée. Et elle dit quoi, justement, sur l'imposition des revenus IMO ? C'est là que ça devient vraiment intéressant pour la rentabilité nette ?
Tout à fait. Et là, c'est assez simple et avantageux. Pour les revenus locatifs d'un bien en Bulgarie, eh bien, l'imposition se fait uniquement en Bulgarie.
Uniquement. Pas d'impôt en France.
Au taux bulgare de 10%, oui. La France, elle, en vertu de la Convention, ne va pas imposer une deuxième fois. Elle accorde un crédit d'impôt.
Un crédit d'impôt, oui. C'est-à-dire ?
C'est un crédit d'impôt qui est égal à l'impôt français qui aurait été dû si le revenu avait été de source française. En gros, ça annule l'impôt français sur ses loyers bulgares. C'est fait pour éliminer la double imposition. Donc, si je résume bien, je paye mes 10% en Bulgarie sur mes loyers nets et en France, grâce à ce crédit d'impôt, ça revient à zéro pour ces revenus-là. Pour les revenus locatifs, c'est exactement le principe. C'est neutralisé. Pour d'autres revenus, comme les dividendes si on passe par une société, c'est un peu différent, mais toujours avantageux.
Comment ça ?
Si on a une société bulgare, une EOD par exemple, et qu'on se verse des dividendes, la Bulgarie prend 5% à la source. C'est tout.
Seulement 5% ?
Oui. Après, en France, ces dividendes sont soumis au PFU, la flat tax française à 30%. Mais là aussi, on a un crédit d'impôt pour les 5% déjà payés en Bulgarie. Donc l'imposition totale reste contenue.
D'accord. Et les plus-values IMO ? Si on revend le bien ?
Là aussi, c'est intéressant. 10% d'impôt en Bulgarie si on revend vite. Mais si on garde le bien plus de 3 ans,
oui.
Exonération totale d'impôt sur la plus-value en Bulgarie.
Après seulement 3 ans, c'est rapide.
Très rapide comparé à la France, oui. C'est un sacré avantage.
Et une dernière question sur ce volet fiscal, qui est souvent douloureux en France. La CSG-CRDS. Est-ce qu'on y échappe aussi sur ces revenus bulgares?
Oui, et c'est un autre point fort de la Convention. Si on est non-résident fiscal bulgare, mais bien affilié à la Sécurité sociale en France ou un autre pays de l'UE suisse, on est exonéré de CSG et de CRDS sur ses revenus immobiliers de source bulgare.
Donc pas les 17,2% habituels?
Non, c'est une économie substantielle en plus du taux d'imposition déjà bas. Le crédit d'impôt en France est censé être automatique quand on déclare, à condition de bien joindre les justificatifs de l'impôt payé en Bulgarie, bien sûr. L'échange d'infos entre les pays sert à ça.
Bon, très bien. Le cadre fiscal est vraiment attractif sur le papier. Mais avant d'en arriver là, il faut acheter. Concrètement, quelles sont les étapes à suivre avant de signer? Les documents insistent pas mal sur la préparation.
Oui, la préparation, c'est essentiel. D'abord, bien confirmer son statut fiscal, on en a parlé. Ensuite, il faut ouvrir un compte bancaire en Bulgarie. Indispensable pour faire transiter les fonds de l'achat et puis pour recevoir les loyers.
Il faut se déplacer pour ça. Alors, point intéressant qui ressort des sources. Apparemment, un avocat local peut le faire à distance, avec une procuration. Ça évite un aller-retour juste pour ça. Ah, c'est pratique ça. Et ça coûte cher cette prestation?
Les documents donnent une fourchette pour l'avocat qui s'occupe de ça et des premières vérifs entre 800 et 1200 euros environ.
D'accord. Ici, on voit plus grand. Plusieurs appartements ou carrément acheter un terrain pour construire?
Ah, alors là, ou si on veut acheter un terrain nu, la création d'une société bulgare devient nécessaire. C'est même obligatoire pour un étranger qui achète un terrain.
Une société bulgare? C'est compliqué à créer?
Apparemment, pas du tout. La forme la plus simple, c'est l'EOD, l'équivalent de notre cérule unipersonnelle, et les sources sont assez bluffantes là-dessus. Capital minimum de l'EVA.
De l'EVA, c'est quoi, 1 euro?
À peu près, oui. Et les frais pour la constituer seraient autour de 100 euros. C'est très accessible. Et au-delà de l'obligation pour un terrain, ça permet de bien séparer les patrimoines et ça peut être intéressant fiscalement si on veut réinvestir les bénéfices.
On parle beaucoup de l'avocat. Son rôle semble vraiment central. On ne peut vraiment pas s'en passer pour économiser un peu.
Franchement, toutes les sources le déconseillent fortement. Ce serait très imprudent. L'avocat local, spécialisé en immobilier, c'est la clé de la sécurité.
Qu'est-ce qu'il fait concrètement?
Il vérifie tout. Le titre de propriété, son historique sur 10 ans minimum, c'est plus facile avec leur cadastre électronique d'ailleurs. Il vérifie qu'il n'y a pas d'hypothèque cachée, de saisie, de servitude.
Il contrôle aussi la conformité urbanistique. Il rédige ou valide tous les actes importants. La procuration, si besoin, le contrat préliminaire. Et il suit tout jusqu'à l'enregistrement final. Et il y a aussi des histoires de paperasse, de traduction.
Oui, il faut prévoir des traductions assermentées de ses papiers d'identité et obtenir un certificat de résidence fiscale en France. Et attention, ces documents doivent être apostillés.
Apostillés, c'est-à-dire?
L'apostille, c'est une sorte de tampon officiel, selon une convention internationale, qui certifie que le document français est authentique et peut être utilisé officiellement en Bulgarie. Une formalité indispensable.
Jamais verser d'acompte avant que l'avocat ait fait toutes ses vérifications et donné son feu vert. Message reçu. Préparation, avocat, document apostillé. Bon, une fois qu'on est prêt, comment se passe l'achat lui-même?
Oui, c'est ce qui ressort. On parle de 4 à 6 semaines en moyenne entre le moment où on se met d'accord sur le prix et la signature finale chez le notaire.
4 à 6 semaines contre 3 ou 4 mois chez nous.
C'est ça. Apparemment, la digitalisation du cadastre, qui est entièrement en ligne, www.icadastre.bg, et des procédures notarielles plus fluides, expliquent cette rapidité.
Et les étapes clés, c'est quoi? Alors, en gros, 5 étapes. 1. La recherche du bien. La négo. Les portails comme bulgarianproperties.com ou imoti.net sont souvent cités pour commencer. Alors, en gros, 5 étapes. 2. Signature du contrat préliminaire. C'est un engagement ferme qui fixe prix, conditions et l'acompte, 5-10%, versé après le check de l'avocat. 3. La due diligence de l'avocat. C'est là qu'il épluche tout, l'historique sur 10 ans, les dettes, les permis. C'est l'étape cruciale pour la sécurité. 3. La due diligence de l'avocat. 4. Signature de l'acte notariel final, le Notarialen Act. C'est l'équivalent de notre acte authentique chez un notaire bulgare. C'est ça qui transfère la propriété. Faut être là ou avoir une procuration spéciale. 3. La due diligence de l'avocat. 5. Et enfin, l'enregistrement au registre des biens. Ça se fait très vite après le notaire. Et ça rend l'achat définitif et opposable à tous. Et on reconfirme les frais pour tout ça. Toujours les 2-3% du prix d'achat. Oui, les sources maintiennent ça pour les frais liés à l'acte. Le notaire, qui a un barème officiel, la taxe d'enregistrement, qui est minuscule, 0,1%, les textes locaux, les traductions, hors honoraire de l'avocat, bien sûr, donc c'est 1 200 € d'avocat, c'est en plus.
Voilà. Mais même avec ça, on reste bien en dessous des frais en France. Ce cadastre électronique est vraiment mis en avant comme un gage de transparence et de rapidité.
D'accord. Alors, on a acheté, revenons à la fiscalité. Mais cette fois, sur les revenus qu'on perçoit, les loyers, comment ça marche exactement, ces 10%? C'est sur le loyer brut qu'on encaisse?
Ah non, et ça c'est très important. C'est 10% sur le revenu locatif net, c'est-à-dire après déduction de toutes les charges liées à l'investissement.
Et on peut déduire quoi comme charge?
Pas mal de choses, d'après les documents. Les intérêts d'emprunt, si on a réussi à en avoir un. L'assurance propriétaire non occupant, la PNO. Les frais d'agence, si on fait gérer. Les dépenses de réparation et d'amélioration, pas juste l'entretien de base. Hein.
Les gros travaux aussi.
Oui. Les charges de copropriété qu'on ne récupère pas sur le locataire, la taxe foncière. Et un truc très intéressant, l'amortissement du mobilier si on loue meublé.
Ah, l'amortissement du mobilier déductible.
Ça, c'est souvent un gros poste d'optimisation.
Est-ce qu'on a une idée de l'impact?
Oui, c'est présenté comme un levier important. Les sources disent que ça peut permettre de déduire comptablement jusqu'à 30% des revenus locatifs bruts chaque année. Forcément, ça fait baisser la base imposable.
Donc au final, l'impôt réel payé peut être bien inférieur à 10% des loyers bruts, hein?
Exactement. Si on combine toutes les charges déductibles, travaux, frais, assurances, l'amortissement, le taux d'imposition effectif par rapport au brut peut souvent tomber entre 5 et 7%.
Ah oui, quand même, c'est significatif.
Les exemples donnés sont parlants. Pour 10 000 euros de loyer brut, si on déduit, disons, 4 000 euros de charges et amortissements, l'impôt n'est que de 10% sur les 6 000 euros nets, soit 600 euros. Ça fait 6% du brut initial.
Impressionnant. Et juste pour être sûr, si on a une société EOOD et qu'on prend des dividendes, et pour les plus-values, on confirme? Alors, dividende d'une EOOD, retenue à la source de 5% en Bulgarie, point. Après, en France, PFU à 30%, mais avec crédit d'impôt pour les 5% bulgares. Et plus-value immobilière pour un particulier, 10% si revente avant 3 ans et 0 impôt après 3 ans de détention. Zéro après 3 ans. C'est vraiment le point clé à retenir pour la sortie. Et on ajoute la taxe foncière qui est faible, c'est ça?
Très faible, oui. Calculée sur une valeur cadastrale souvent en dessous du marché, avec des taux entre 0,15% et 0,30% de cette valeur.
Bon, fiscalité douce à toutes les étapes. Mais il faut quand même déclarer tout ça, j'imagine. C'est compliqué administrativement pour un Français, la fameuse paperasse.
C'est présenté comme assez gérable, mais ça demande de l'organisation. En Bulgarie, il faut faire une déclaration annuelle des revenus locatifs avant le 31 mars de l'année suivante. Il faut bien lister les loyers bruts et toutes les charges déduites pour calculer le net.
Et en France?
En France, il faut reporter ses revenus sur sa déclaration habituelle. Il y a des cas spécifiques, le formulaire 2047 pour les revenus étrangers et le 2042C Pro pour les revenus fonciers. C'est là que le mécanisme du crédit d'impôt s'active pour éviter la double imposition. Donc double déclaration, mais pas double impôt.
C'est ça l'idée. Faut juste être rigoureux et bien garder les preuves de l'impôt pesé en Bulgarie. La dématérialisation aide, mais faut suivre.
Et au-delà des déclarations, est-ce que les documents donnent des conseils pour, disons, sécuriser ou optimiser encore un peu plus? Oui, quelques pistes. D'abord, l'assurance PNO, propriétaire non occupant. C'est vraiment recommandé. Ça coûte entre 200 et 400 euros par an, mais c'est déductible et ça couvre pas mal de pépins.
D'accord. Autre chose?
Pour ceux qui ont plusieurs biens ou un patrimoine un peu plus important, la structure de société, l'EODID, revient comme outil d'optimisation. Ça permet de laisser les bénéfices dans la société, taxés à 10%, et de choisir quand sortir les dividendes, taxés à 5%. Ça peut aussi aider pour la transmission.
Et faire appel à quelqu'un sur place?
Oui, le recours à un comptable local, si possible francophone, est souvent conseillé. Il connaît bien les règles locales, peut aider à maximiser les déductions, surtout l'amortissement, et s'assurer que les déclarations bulgares sont nickel. Ça coûterait entre 500 et 800 euros par an.
Ok. Et l'euro et la digitalisation, ça va simplifier tout ça ?
Logiquement, oui. L'euro en 2026, ça va faciliter les flux et les services fiscaux bulgares se modernisent. Apparemment, il y a un projet de portail unique UPRS d'ici 2026. Tout ça devrait simplifier la gestion à distance. Bon, alors, si on récapitule les points pratiques clés qui ressortent des FAQ dans les documents, un citoyen européen qui veut juste acheter un appart, pas besoin de visa, pas besoin de société, c'est ça ?
Libre achat d'un logement. Société seulement si on achète un terrain nu.
L'acompte ?
5 à 10%, mais le point crucial, après le feu vert de l'avocat sur les vérifications juridiques. Jamais avant.
Durée pour acheter ?
4 à 6 semaines, c'est ce qui est avancé.
Les coûts totaux ?
Environ 2-3% du prix pour les frais d'acte, plus les honoraires de l'avocat qu'il faut compter entre 800 et 1200 euros.
Déclaration en France ? Oui, obligatoire, via les formulaires 2047 et 2042 CPRO. Mais pas de double imposition grâce au crédit d'impôt.
Quand est-ce qu'on crée une société bulgare ?
Obligatoire pour un terrain nu. Sinon, c'est une option, si on a plusieurs biens ou pour une stratégie fiscale ou de transmission.
L'euro, ça simplifie vraiment ?
Plus de risques de change, compta plus simple, moins de frais bancaires potentiellement. C'est un vrai plus.
Et le prêt immobilier sur place, possible ou pas ?
Ça a l'air difficile pour un non-résident sans revenus locaux. Les sources suggèrent plutôt un achat comptant ou un financement trouvé en France.
Et l'optimisation fiscale une fois propriétaire. La clé, c'est de bien déduire toutes les charges possibles. Travaux, assurances, gestion. Et surtout, ne pas oublier l'amortissement du mobilier, qui peut vraiment réduire l'impôt net.
Parfait. Merci, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon basé sur ces documents. Ce qu'on retient, c'est vraiment ce trio. Une fiscalité très attractive, ce fameux 10% sur le net.
Oui. C'est le chiffre marquant.
Des procédures d'achat qui semblent rapides et moins chères qu'ici.
Et puis l'arrivée de l'euro début 2026 qui va stabiliser et simplifier encore les choses pour les investisseurs de la zone euro.
C'est un cadre qui est séduisant, c'est clair. Fiscalité, coûts, intégration européenne, ça coche pas mal de cases sur le papier. Maintenant, la clé du succès, et tous les documents insistent là-dessus, c'est la préparation.
La rigueur.
Non, le maître mot.
Absolument. Et peut-être pour laisser nos auditeurs avec une dernière piste de réflexion qui dépasse un peu les chiffres, on a beaucoup parlé des avantages actuels, fiscaux, pratiques, mais comment est-ce que cette intégration européenne, qui continue, avec l'euro comme symbole fort, pourrait influencer à plus long terme le marché immobilier lui-même en Bulgarie ? Est-ce que ça pourrait tirer les prix vers le haut, changer la dynamique ?
C'est une excellente question. L'intégration à la zone euro a souvent eu un effet sur les marchés immobiliers des nouveaux membres. C'est une perspective à intégrer dans sa réflexion à long terme, en effet, au-delà des avantages immédiats.
Voilà, une question à garder en tête. Merci beaucoup pour cette analyse très complète.
Avec plaisir, c'était passionnant de décortiquer tout ça.